Bonjour à tous. Bonjour Aileen. Bonjour Aileen.
Bonjour.
Et bienvenue hein, parmi nous pour les jardinières, l'émission qui, chaque samedi matin, vous aide à avoir la main un petit peu plus verte. Aujourd'hui, pour vous donner les meilleurs conseils en jardinage, nous accueillons notre spécialiste, Catiou Racine, jardinière à Delémont. Bonjour Catiou.
Bonjour.
Jusqu'à 8h, nous répondons à toutes vos questions. Des questions que vous pouvez nous poser dès à présent par téléphone en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Jusqu'à 8h, hein, nous sommes joignables à ce numéro pour vous aider avec vos plantes d'intérieur, votre potager, votre gazon, vos arbres fruitiers. Bref, tout ce que vous voulez, c'est le 0901 70 20 20. Vous pouvez également nous poser les questions via SMS en tapant le mot jardin suivi de votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Tout au long de la semaine, vous pouvez également nous envoyer vos formulaires via notre site internet.
Les jardinières vous souhaitent la bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
Les jardinières.
Nous débutons tout de suite avec une question reçue via notre site internet. Une question qui nous vient de Thierry de Rebevelier. Il nous demande « Ma voisine a un talus rempli de fraises des bois. J'aimerais faire pareil chez moi. Est-il possible de prendre des pieds chez elle pour mon talus ? Et si oui, on doit le faire à quelle saison ?» Catiou Racine.
Alors oui, on peut prendre des plants de fraisier des bois chez sa voisine. Déjà, la première chose à faire, peut-être, c'est lui poser la question si elle
ça
est d'accord.
Ça serait peut-être mieux. Hein.
Ça serait une bonne idée si on veut conserver des bonnes relations de voisinage. Ensuite, il peut prendre soit des pieds directement qu'il va déterrer sur ce talus, ou alors il peut prendre les stolons. Les stolons, ce sont des petites pousses qui se refont sur chaque pied de fraisier. En fait, le fraisier fait une sorte de tige, comme une longue liane, et puis sur cette liane, il viendra différents petits fraisiers à 10 cm d'écart l'un de l'autre. On peut très bien couper sur cette liane chaque fois un petit plant de fraisier et puis le replanter dans le talus, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, concernant la saison, c'est vraiment trop tôt à présent chez nous, disons, pour ce type de plante, on attendra le mois de mai. On peut les mettre maintenant, mais il y a une chance sur deux qu'elles ne passent pas le cap.
Est-ce que par contre, Catiou, il y a d'autres petits arbres fruitiers qu'on pourrait planter maintenant ?
Maintenant, on peut quasiment tout planter. C'est vraiment la bonne saison. On arrive même, je dirais, en fin de saison, les plantes de tout ce qui est, disons, en motte. On appelle en motte les plantes qui sont avec un pot quand on les achète. Ils se plantent entre, je dirais, janvier, début janvier et fin février. Il faut faire ça vraiment encore maintenant. Ils ont besoin d'encore une petite période de repos avant de reprendre. Mais on peut planter quasiment tout, sauf tout ce qui est méditerranéen. Là, on attend aussi le mois de mai.
Et puis, Aileen, hein, vous êtes allée vous promener dans les rues cette semaine pour cueillir les questions des auditeurs. En voici une première. Attention, Catiou, c'est pour vous, on l'écoute.
On a des plantes de tomates qui partent un peu dans tous les sens. Je ne sais pas comment les tailler pour que les tomates soient jolies et puis que le plant ne soit pas dans tous les sens, quoi.
Effectivement, la tomate, si on la plante et qu'elle se plaît, ce qui n'est déjà pas forcément évident chez nous, elle va faire en fait un arbuste. Donc elle va beaucoup pousser, elle va partir dans tous les sens, puis elle va faire très très peu de fruits, parce que la tomate est un fruit et non pas un légume. Ce qu'il faut faire quand on achète la tomate, donc quand on l'achète dans le petit pot, en fait il y a une tige très, très droite avec des feuilles sur le côté. C'est un petit peu difficile à expliquer sans faire de dessin, mais je vais essayer. Et quand vous avez planté cette plante, elle commence de développer là où il y a la ramification entre la feuille et la tige, elle va commencer de faire des petites pousses. Donc chaque fois qu'il y a une petite pousse à cet embranchement, il faut casser ces petites pousses. Donc en fait, la tomate ne doit pousser qu'en hauteur et non pas en largeur. Mmh. Après, on peut la laisser aller en largeur, on peut en laisser une toutes les 10 embranchements, mais il faut vraiment faire attention parce que sur cette pousse qui repoussera, il reviendra d'autres pousses. Donc finalement, la plante, elle a besoin de toute son énergie pour faire ses pousses et n'arrivera plus du tout à faire de fruits. Donc il faut vraiment casser toutes ces petites pousses.
Et les tomates, c'est une plante dont on a besoin de s'occuper tout au long de l'année ou bien elle a des périodes plus spécifiques où elles ont besoin de plus de soins ?
Non, il faut vraiment s'en occuper. La tomate, finalement, elle paraît simple, mais elle est assez compliquée parce que c'est une plante quand même du sud. Elle ne supporte pas du tout la pluie, donc il faudrait pouvoir, dans l'idéal, soit la couvrir avec un plastique où il existe des cloches, comme on appelle ça dans le commerce. On peut recouvrir nos tomates, mais il faut vraiment s'en occuper toute l'année. Il faut y être tous les jours, et puis l'arrosage est très très important parce que La tomate attrape le cul noir, c'est pas très joli comme mot, mais je sais pas si vous avez déjà vu, parfois on a de jolies tomates, et puis sous le dessous, il y a une grosse tache noire qui monte sur toute la tomate, et puis qui la perd, en fait. Mm-hmm. Et puis ça arrive parce qu'on n'arrose pas régulièrement, c'est-à-dire qu'on a tendance, ben voilà, on va travailler, on rentre le soir, nos tomates sont hyper sèches, on se dit, oh là là, je vais y mettre 5-6 litres d'eau, ben justement pas, quoi. Il faut vraiment toujours arroser avec la même quantité d'eau. Sur un pot, je dirais, de 20 cm de diamètre, on compte à peu près 5 décis d'eau par jour. Donc, il faut être très, très régulier.
Et est-ce que toutes les tomates ont le même goût ou bien ça dépend vraiment de la façon dont on s'en occupe ?
Non, l'entretien n'a aucune influence. Par contre, les tomates, il y a énormément de variétés et on trouvera des tomates qui sont plus amères, des tomates qui sont plus douces, certaines qui se prêtent mieux à la cuisson, d'autres qui se prêtent mieux simplement à croquer dedans. Donc, c'est vraiment les variétés qui font que le goût change, non pas l'entretien.
Très bien, et en plus nous avons l'occasion de découvrir la plante aromatique qu'on utilise très souvent avec la tomate. C'est quoi les filles ?
Bah, le basilic.
Et oui, justement un auditeur a une question sur cette plante, on l'écoute.
Je me demandais, les basiliques, comment est-ce que c'est le mieux de les couper pour que c'est le maximum de productivité ?
Alors, le basilic, ben oui, il rejoint vraiment bien la tomate parce que c'est aussi vraiment une plante du sud. Le basilic, il faut absolument le pincer. C'est-à-dire que déjà, quand on prélève les feuilles pour utiliser en cuisine, il ne faut surtout pas utiliser de ciseaux. Par contre, il faut utiliser ses ongles pour écraser la tige. En fait, ça lui donne de la force. Il se défend contre cette agression pour refaire des pousses. Et on prendra toujours les feuilles du haut et toujours en dessus de deux autres feuilles. Et puis là, comme la tomate, du moment où on le casse, et bien en fait il va refaire deux petites pousses sur le côté et on recassera ces deux petites pousses qui referont deux petites pousses et etc etc. Mais par contre chez nous c'est quand même très très compliqué d'avoir un beau plant de basilic parce qu'encore une fois c'est des plantes qui sont généralement conditionnées dans des très petits pots avec de la terre bon marché. Donc l'idéal quand on achète le basilic c'est de le remettre dans un joli pot, dans un grand pot avec de la bonne terre, et puis vraiment aussi tous les jours d'aller faire ces petites cueillettes pour le motiver en fait à pousser.
Mais il faut être un peu brutal avec le basilic, j'ai l'impression.
Oui, exactement.
Mais il y a d'autres plantes pour lesquelles on doit un peu utiliser cette technique un peu d'agresser la plante pour qu'elle repousse mieux.
En général, toute plante qui a un choc ben, rebondit, en fait. Donc, on a pas mal de plantes, notamment les plantes à bulbes, peut-être qu'on en parlera plus tard. Des fois, quand elles ne reviennent plus, ben, il faut les mettre à la cave, en bonne punition. On les met à la cave un moment, on les prive de lumière et d'eau. Et puis, sitôt qu'on les remet de nouveau dans des conditions optimales, ben, en fait, elles ont un choc, donc elles redémarrent.
Merci beaucoup Cathy. Je rappelle que vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour répondre à toutes les questions des auditeurs. Les questions, vous pouvez les poser dès à présent, hein. N'hésitez pas au 0901 70 20 20. On est agressif peut-être avec le basilic, mais pas avec vous, je vous le promets. 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou alors par SMS, vous tapez le mot jardin suivi de votre question et vous nous envoyez le tout au 939.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est l'émission qui vous accompagne tous les samedis matins entre 7h et 8h. Et on est surtout là pour répondre à toutes vos questions et surtout vous donner des conseils hein, concernant vos plans d'intérieur, votre jardin extérieur. Peu importe, mais à condition que vous nous appelez hein, au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous désirez parler à notre spécialiste Cathy Racine. C'est le 0901 70 20 20. Et si vous désirez également nous envoyer un SMS, c'est possible. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous nous envoyez le tout au 939 et on y répondra avec grand plaisir jusqu'à 8h.
Ben oui, vos questions, on les attend en direct ce matin, mais on se rend aussi dans la rue. Comme vous, Aileen, vous avez fait ça cette semaine. Vous êtes allée à la rencontre des auditeurs qui avaient des questions jardinage, alors qu'ils aient un tout petit jardin ou de grands vergers. Ça va vraiment pour tout le monde. Et on a justement ce monsieur qui a un petit problème. On l'écoute tout de suite.
Oui, j'ai un problème d'amaryllis. Je suis les indications qu'il y a sur le petit carton qu'ils ont mis avec, qu'il faut, une fois qu'il a fleuri, le mettre en régénération pendant l'été. Puis après, il faut l'assécher, il faut le mettre au frais. Et puis vers Noël, enfin un peu avant Noël, il faut le ressortir. D'abord, pas l'arroser, parce qu'il ne fera que des feuilles. Voilà, alors je fais tout ça, mais je n'y arrive jamais.
Voilà, Katiou, si vous pouvez venir en aide à ce monsieur.
Mais avec
qui a tout
plaisir.
Bien fait.
Avec grand plaisir. Alors, finalement, son procédé, il est assez juste. Il y a peut-être juste deux ou trois détails qui ne fait pas, qui font toute la différence. En fait, la marilis, c'est une plante qui a plutôt une floraison printanière. Donc, déjà là, elle a le problème parce qu'en fait, nous, dans nos contrées, c'est une plante de Noël. Donc, elle a un tout petit peu d'avance sur le gâteau, comme on dirait. Alors, en fait, cette fleur va vraiment fleurir. Et puis, quand elle fleurira, elle fera de grandes feuilles aussi. Elle fleurira, elle fera soit un bouton, soit deux boutons, parfois trois, mais c'est très très rare. Donc là, on l'arrose, normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, elle va cesser de fleurir. Donc là, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà couper cet énorme tronc qui prendra beaucoup beaucoup de force. Il faut vraiment l'enlever, c'est très très important. Ensuite, il faut vraiment la laisser fleurir, faire les feuilles. Elle va faire les feuilles presque pendant 3 à 4 mois. Donc elle va faire des feuilles. C'est pas très très joli, mais surtout il faut pas la cacher ou la mettre à l'ombre ou je sais pas quoi. Il faut vraiment la laisser dans des conditions optimales. Et puis ensuite, vers la fin de l'été, ces feuilles vont jaunir et puis ensuite elles vont complètement faner, complètement brunir. Là, il faut couper ces feuilles. Donc en fait, la marilis n'aura plus que 1 ou 2 centimètres de pouce par rapport au bulbe. Et il faut vraiment progressivement diminuer l'arrosage. Il faut surtout pas l'arrêter brutalement. Donc là, pas de brutalité avec la marilis.
Contrairement au basilic.
Et puis on va diminuer progressivement cet arrosage. Et si possible, on va mettre, une fois qu'on a fini avec l'arrosage, donc là, ça va prendre peut-être 3 semaines, 1 mois. Quand on a fini avec cet arrosage, on va prendre ce bulbe et on va, si possible, le mettre dans un endroit où il y a beaucoup moins de lumière et où il fait un peu plus frais, parce qu'il faut le mettre en repos. Le bulbe a vraiment besoin d'une période de repos pour pouvoir refaire ses réserves, on va dire, pour permettre à la fleur de repartir après. Et puis, on le laissera aussi 1 mois, voire 2 mois, donc là, on ne s'en occupe plus du tout. Et puis, on le remet progressivement dans une pièce chauffée, où il y a de la lumière, puis là aussi, on ne recommence pas d'arroser vivement, on y va gentiment, progressivement, et puis normalement, ça devrait bien se passer. La marilis n'a pas besoin d'engrais, parce qu'il fait lui-même ses réserves.
Mais en ce moment dehors, il fait trop froid pour cette période de repos, ou bien c'est la température idéale?
Non, il ferait trop froid. Il faudrait le mettre peut-être, si on a une cave qui fait une dizaine de degrés, ça serait vraiment l'idéal. Le bulbe d'amaryllis ne doit pas geler, surtout pas. Donc voilà, il faut vraiment le mettre dans un endroit, ou un garage, ou un couloir, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière, c'est très très important.
Et à part la marilis, quelle autre plante fonctionne un peu comme ça, avec un bulbe, voilà, qu'il faut vraiment garder à bonne température?
Alors, toutes les plantes méditerranéennes, par exemple, hein, on a toutes les plantes à bulbe d'intérieur qui fonctionnent comme ça, et puis toutes les plantes méditerranéennes, elles ont vraiment besoin d'une pause en hiver. On a, par exemple, si on prend l'olivier ou le citronnier, on les mettra dehors en été, attention, pas en plein soleil, bien évidemment, mais ils feront leur petite vie dehors en été, ils seront tout contents et tout. Quand on arrive au mois d'octobre, on les met vraiment dans un endroit aussi où il fait 10 degrés, 15 degrés. Par contre, eux, à l'inverse, ils auront quand même besoin de lumière. Donc c'est des plantes qui ont besoin de repos hivernal. Mais finalement, si on regarde qu'on soit au nord ou au sud, qu'on soit au sud de l'Italie ou au Jura, toutes les plantes ont une pause. Donc il faut vraiment respecter, il faut s'imaginer quelles sont les conditions de vie qu'elles ont dans leur milieu naturel, et puis il faut essayer de le reproduire au maximum chez nous. C'est pas toujours facile, mais on y arrive.
Donc finalement, on peut avoir des plantes méditerranéennes chez nous et que ça fonctionne bien.
Bien sûr, il faut juste avoir les conditions pour. Puis c'est vrai que si on est en appartement ou en pleine ville, c'est des fois plus compliqué de trouver un endroit qui sera plus frais, ou même un couloir, quoi. Tout simplement un couloir d'immeuble, ben, il fait toujours bien frais en hiver, on peut très bien mettre son citronnier là pour faire la pause si les voisins sont d'accord.
Oui. Merci Katiou. On attend vos appels ce matin pour poser vos questions en direct à Katiou, qui est là, qui est toute fraîche pour répondre à toutes vos questions. Aileen, comment on fait?
Par exemple, vous pouvez le faire par téléphone jusqu'à 8h. N'hésitez pas à composer le 0901 70 20 20 ou alors vous nous envoyez un petit SMS. Vous tapez le mot jardin suivi de votre question et vous envoyez tout au 939. Je rappelle le 0901 70 20 20 pour les appels et le 939 pour les SMS.
C'est l'heure de faire un petit intermède météo et inforoute. On se retrouve juste après. À tout de suite.
7h, 8h. Les jardinières.
Les jardinières vous accueillent jusqu'à 8h et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Katiou Racine, jardinière à Delémont. Elle est avec nous pour répondre à toutes vos questions.
Des questions que vous pouvez d'ailleurs nous poser jusqu'à 8h hein, par téléphone. N'hésitez pas, appelez le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Je vous rappelle le numéro de téléphone des jardinières. On est joignable au 0901 70 20 20 ou par SMS. Vous tapez le mot jardin suivi de votre question et vous nous envoyez le tout au 939. Et en parlant d'SMS, on a d'ailleurs reçu une question pendant notre petite interlude musicale. On nous demande à partir de quand peut-on commencer de scarifier le gazon ? Faut-il attendre le printemps ? Katiou.
Alors, le gazon, c'est un grand débat parce que tout le monde veut commencer à traficoter dans son gazon dès qu'il y a un rayon de soleil. Il faut surtout, surtout pas s'affoler. Chez nous, je dirais que tous les travaux concernant le gazon, on ne les commence pas avant mi-avril, voire début mai, à moins qu'on ait vraiment une année exceptionnelle et puis qu'on ait des 25 degrés début mars. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas trop rêver. Donc, on passe le scarificateur, on laisse pousser le gazon, on fait une première tonte. Et puis quand on a pu tondre une fois, là, on peut passer le scarificateur. Le scarificateur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un appareil qui permet, par une rotation de petits picots sous la machine, qui permet d'enlever tout ce qui est sec en profondeur dans le gazon, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas atteindre avec un râteau ou un autre outil. Donc ça permet d'enlever tout ce qui est mousse, tout ce qui est sec. Donc quand on aura fini cette opération, notre gazon sera très très nu en fait. Il restera plus que quelques petites pousses. Donc après cette opération, il faudra bien penser à ressemer, à bien arroser, mettre de l'engrais et puis tondre de nouveau 3 ou 4 fois avant qu'on ait un joli gazon. Donc si on fait ça, je dirais mi-avril, on peut dire que mi-mai, fin mai, on a un gazon qui est praticable. Donc on est dans les temps pour les pique-niques et autres.
Merci beaucoup Katiou. Et je crois bien qu'on a un téléphone, je ne sais pas s'il concerne le gazon ou quelque chose d'autre. Bonjour, qui est avec nous ?
Bonjour, c'est Madame Calam.
Bonjour, vous avez une question à poser à Katiou Racine qui est avec nous.
Voilà, c'est cela. Alors, il s'agit d'un petit rosier de l'année passée. Donc un pot hein, que j'ai maintenu sur le balcon donc à partir du mois d'octobre et maintenant donc j'ai enlevé le plastique avec lequel je l'avais couvert et je constate que les petites branches, pas c'est un petit rosier, les petites branches sont un petit peu noircies. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, il faut couper ces petites branches, si vous avez possibilité. S'il n'y a pas trop à tailler, c'est la première chose à faire, c'est d'enlever ces petites branches. Ce qu'il faut faire attention quand on laisse un rosier en pot en hiver, c'est justement d'éviter de le couvrir avec un plastique. Pourquoi ? Parce que le plastique favorise l'humidité à l'intérieur de cette protection. Et puis quand il y a de l'humidité, et ben évidemment, il se développe des maladies. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, si vous arrivez à tailler, s'il n'est pas trop atteint, enlevez tout ce que vous pouvez enlever. Évitez de toucher les branches qui sont contaminées et de retoucher le rosier après. Parce qu'en général, on transmet par nos mains ces maladies. Et puis, ensuite, il faudra bien lui remettre de l'engrais au printemps. Pour le moment, faites juste la taille. Ça, c'est vraiment très important. Mais l'année prochaine, si vous le laissez de nouveau à l'extérieur, il faudrait plutôt le recouvrir avec un voile, hein, quelque chose où l'air peut passer, en fait.
Donc, une sorte de toile jute.
Voilà. Oui, la toile jute, non, parce que ça sera trop humide. Il faut vraiment trouver quelque chose de tissé,
et
vous
puis,
savez.
Les branches, est-ce que je les coupe juste tout bas jusqu'à enlever donc toutes ces branches noircies?
Oui, il faut tout enlever, tout ce que vous pouvez. Après, si
d'accord.
Vous me dites que
puis,
quand vous le taillez,
je peux changer donc de peau puisque donc ça grandit. Je peux les changer dans un grand pot.
Alors, une chose après l'autre. D'abord, vous
d'accord.
le taillez, vous le laissez se rétablir tranquillement. Et puis, au printemps, vers le mois de mai, juin, vous pouvez sans problème le rempoter. Il faut de toute façon le rempoter chaque année.
D'accord, alors. Bon, ça va bien. Alors, je vais suivre vos conseils.
Super.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci, au revoir. Je vous rappelle que vous pouvez donc poser toutes vos questions par téléphone hein, jusqu'à 8h au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le 0901 70 20 20 si vous avez une question à poser à notre invité Katiou Racine ou vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question et vous nous envoyez le tout au 939.
ou alors vous pouvez avoir la chance de nous croiser dans la rue. On passe vers vous pour récolter vos questions. Et vous, Aileen, vous avez rencontré une auditrice cette semaine qui nous a demandé ceci.
Oui, alors moi, ce serait plutôt, quand les feuilles des roses, ils ont tout d'un coup des petits ronds, je veux dire qu'ils poussent dessus, sur les feuilles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Voilà, Katiou, ce que vous avez pu décrypter, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ces ronds sur ces feuilles.
Des petits ronds sur les feuilles. Alors, en général, sur les feuilles des rosiers, c'est très, très rare qu'on puisse avoir des rosiers qui sont vraiment magnifiques, sans maladie. C'est quand même une plante qui attrape facilement des maladies cryptogamiques. Donc, ces ronds sur les feuilles, en fait, c'est un champignon qui vient. C'est pas un champignon qui pousse comme on trouve dans la forêt, mais c'est une variété de champignons qui apparaît, justement, comme on disait avant avec l'auditrice qu'on a eue au téléphone. C'est parce qu'il y a beaucoup d'humidité et puis en été il fait chaud, donc ces spores de maladies se déplacent dans l'air et vont se poser sur nos plantes, et puis le rosier est un très bon support. Alors la chose à faire, c'est déjà d'enlever manuellement toutes ces feuilles qui sont atteintes. Puis comme je le disais avant, il faut vraiment faire attention, il faut bien éliminer ces feuilles, surtout pas les laisser sur le sol, parce que évidemment les spores vont s'envoler et se remettre sur le rosier. Donc finalement ça sera un cercle vicieux, on n'arrivera pas à l'éradiquer si on n'enlève pas ces feuilles. Donc ces feuilles qu'on a enlevées, qui sont malades, il faut vraiment les prendre, les mettre dans le compost, dans un contenant fermé, en fait, de manière à ce que ça ne puisse pas s'envoler. Et puis ensuite, pour la prévention, je dirais, il faudrait pouvoir faire un traitement. À cette période ici, on traite avec un produit qu'on trouve dans les grandes surfaces par ici autour, c'est du cuivre. On voit souvent sur les tomates en été, vous avez déjà vu, les feuilles sont bleues, les gens ont traité, puis les tomates sont complètement bleues, donc ça c'est le cuivre. Et puis c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant à cette saison, ce traitement du cuivre, donc ça sera vraiment un préventif, et puis ça évitera que ces maladies ne se déposent. Après, les plantes ne sont pas protégées à 100%, mais c'est déjà une bonne protection de départ. Et puis après, pendant la saison, on peut refaire ces traitements toutes les 2 à 3 semaines, aussi jusqu'au début du mois de juin. Après, ça ne sert plus à rien, mais on peut travailler comme ça pour éviter qu'il y ait ces maladies. Donc c'est en fait une maladie cryptogamique qu'on appelle le Marsonia.
Pourquoi ça ne sert plus à rien à partir du mois de juin?
Parce qu'on arrive en fin de saison chez nous, et puis les plantes travaillent beaucoup moins, donc elles n'assimilent pas la même chose, les produits. Donc en général, au début du mois de juin, voire juillet, on stoppe les traitements. Ça ne sert plus à rien, en fait.
Et c'est peut-être une question stupide, Katia, mais les rosiers sont uniquement des plantes d'extérieur ou c'est possible d'avoir des rosiers à l'intérieur ?
Alors, il existe dans le commerce des petits rosiers d'intérieur, mais ils sont absolument pas faits du tout pour être à l'intérieur. Le rosier, il a besoin de pluie, il a besoin de vent, il a besoin d'intempéries, il a besoin de froid, de chaud. Donc, c'est vraiment compliqué quand on trouve ces petits rosiers dans des petits pots pour mettre à l'intérieur. Ça va bien pour 3-4 semaines. Et puis après, il faudrait vraiment les planter au jardin parce que c'est vraiment là qu'ils se plaisent.
Et donc, si on achète ces tout petits rosiers, justement, on peut les replanter ensuite dehors et ils vont grandir ?
Bien sûr. Ça restera des variétés naines, donc ça restera des tout petits rosiers. Si on les plante au jardin, ceux-là, il faut faire attention de ne pas les mettre entre deux géants parce qu'il va se faire étouffer, donc il ne va pas pouvoir prospérer. Mais il faut vraiment les mettre à l'extérieur si on veut le garder. Ça, c'est sûr.
Merci, Katiou. On va vous rappeler encore une fois, Aileen, le moyen pour nous appeler ce matin et poser la question qui vous taraude peut-être depuis un petit moment. Katiou Racine qui est là pour y répondre.
Et oui, il vous reste quelques minutes. On attend vos appels au 0901 70 20 20. Si vous désirez poser une question à Katiou Racine, c'est le 0901 70 20 20 qu'il faut composer pour 36 centimes la minute. Ou alors, vous nous envoyez un petit SMS. Il vous suffit de taper le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous nous envoyez le tout au 939.
7h, 8h, les jardinières.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 8h pour répondre à toutes vos questions, des questions que vous pouvez nous poser par SMS en tapant le mot jardin suivi d'un espace. Vous nous envoyez votre question ensuite au 939 ou alors vous pouvez nous appeler, n'hésitez pas à composer le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, le 0901 70 20 20. Et d'ailleurs, pendant cette belle chanson de Lady Gaga, on a reçu des SMS, notamment celui-ci qui traite une question par rapport à un bambou. J'ai un petit bambou, il n'est pas directement exposé au soleil. Il a beaucoup de feuilles brunes dont je n'arrive pas à me débarrasser. Que faut-il faire ?
Alors, le bambou, c'est pas très compliqué, puis à la fois c'est très compliqué, parce qu'il y a une multitude de variétés incroyables. Donc c'est déjà un peu compliqué de répondre à la question quand on ne sait pas exactement ce que c'est comme type de bambou. Mais je pense que justement, peut-être le problème, c'est que ce bambou n'est pas exposé au soleil. En général, c'est quand même une plante qui devrait être placée soit à l'est ou soit à l'ouest, si on peut, autour d'une maison. Ils ont besoin de soleil, c'est des plantes qui ont besoin de chaleur pour prospérer. Et puis, il se peut aussi que dans nos régions, il est sous la terre, qu'il ait les pieds en fait dans de la marne, ce qu'il n'aime pas du tout. Donc automatiquement, il va réagir et il va vivoter, si on peut dire un petit peu comme ça. Donc si ce bambou n'est pas trop grand, l'idéal, ça serait de le sortir de la terre, de changer la terre, de regarder ce qu'il y a au fond, et puis peut-être faire un apport de terre de bruyère. Ils ont besoin d'une terre un petit peu acide comme ça, et puis mettre un peu de terre de bruyère et replanter ce bambou dans une terre de qualité. Je pense que le problème vient de la terre et le soleil.
On peut faire ça en cette période de l'année ou c'est...
Oui, sans problème. C'est même mieux maintenant parce qu'ils sont en repos, donc ça évite qu'ils aient des... Enfin, le bambou a des racines très très fortes, donc c'est un sacré travail à faire. Il faut vraiment prendre le temps. Mais maintenant, oui, on peut faire ça sans problème maintenant.
On a aussi reçu une autre question par SMS. Je vous rappelle que les questions, vous pouvez nous les envoyer en tapant le mot jardin. Suivi de votre question, vous nous envoyez le tout au 939, comme l'a fait Sophie. Elle nous dit « Bonjour, j'aimerais connaître la fréquence d'arrosage pour une orchidée et un bonsaï, je pense qu'elle voulait dire, et comment bien les entretenir ?»
Alors, l'orchidée, c'est toujours la question récurrente, comment arroser mon orchidée, mais c'est très très simple en fait. L'orchidée, il faut lui faire des bains, elle adore ça.
Comme nous.
Exactement, je pense qu'elle se détend dans le bain. Il faut remplir soit son évier, soit une bassine, enfin ce qu'on a à disposition, avec de l'eau tiède, jamais, jamais, jamais d'eau froide. Et puis, il faut tremper ces orchidées. Si on a le temps, on les laisse toute une nuit, donc on les met le soir tranquillement dans l'eau tiède. Le lendemain matin, on les sort de l'eau et on laisse bien goûter, mais je dirais au minimum une demi-heure par semaine. Donc il faut vraiment les prendre, remplir d'eau jusqu'en haut du pot, qu'elle soit vraiment, que le pot soit complètement immergé dans l'eau, bien laisser absorber ces racines de l'eau dont elles ont besoin, et aussi important, bien laisser égoutter quand on a fini le bain, parce que si on remet en général notre pot dans un cache-pot et que l'eau s'égoutte au fond du cache-pot, l'orchidée n'aime pas du tout rester une semaine avec les pieds dans l'eau. Donc ça y fera un grand tort, ses feuilles viendront toutes jaunes. Donc il faut vraiment bien laisser les égoutter. Et puis dans cette eau de bain, on peut une fois par mois mettre un bouchon d'engrais pour orchidées. Et puis elles feront une floraison extra avec cet arrosage-là.
C'est vrai qu'on en entend un peu des vertes et des pas mûres, si oui. Je puis dire, avec les orchidées. C'est vrai qu'on a souvent entendu qu'il fallait laisser 10 minutes une fois par semaine dans de l'eau froide, typiquement ce que je faisais, entre parenthèses. Et c'est vrai qu'il faut utiliser de l'eau tiède.
Ben voilà.
Comment ça se fait qu'il y a autant de théories différentes sur les orchidées ?
Alors encore une fois, c'est ce qu'on disait avant, l'orchidée, son terrain de prédilection, c'est des forêts tropicales, donc la chaleur est très élevée, l'humidité est très élevée. Donc si on la met 10 minutes dans de l'eau froide, elle n'a pas du tout ce qu'elle a dans son milieu naturel. Dans son milieu naturel, elle aura des températures chaudes avec de l'humidité qui est tempérée. Donc il faut vraiment toujours essayer de reproduire les conditions. L'idéal vraiment, ça serait d'avoir une pièce qui est très humide et puis qui est tempérée. Chez nous, c'est juste pas possible. Il faudrait avoir une serre spéciale, mais il faut essayer de reproduire ça au maximum.
Et les bonsaïs, du coup, c'est pas du tout la même chose ?
Les bonsaïs, alors, ça dépend aussi un petit peu. Là, si c'est un bonsaï d'intérieur, donc je prends l'exemple, par exemple, d'un ficus. Le ficus, lui, on le baignera aussi, on met jamais d'eau par-dessus. Pourquoi ? Parce que, en fait, si on regarde toutes nos plantes, quand on touche la terre dessus, c'est toujours très sec. Donc, qu'est-ce qu'on se dit ? Ah bah tiens, je mets un coup d'arrosoir parce que c'est sec. Mais en fait, bien souvent, le fond du pot est encore humide ou suffisamment mouillé. Donc là aussi, si on prend le bonsaï ficus, par exemple, on le baignera exactement de la même manière que les orchidées, sauf que là, on laissera peut-être qu'une heure, pas plus. Ça sera beaucoup trop de laisser toute une nuit parce que le bonsaï, il a de la terre. L'orchidée n'a pas de terre. Donc, l'humidité reste différemment. Après, si c'est un bonsaï d'extérieur, par exemple, si on prend un érable du Japon qu'on aura à l'extérieur, là, c'est la nature qui arrosera tout seul. Mais je pense que cette personne-là parlait plutôt d'un bonsaï d'intérieur.
On a reçu une toute dernière petite question par SMS de Claude qui nous demande « Est-ce que c'est efficace de répandre les cendres de fourneaux dans son potager ?»
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit efficace. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup autrefois par nos grands-parents ou arrière-grands-parents. On peut mettre un petit peu, je dirais peut-être une fois ou deux fois dans l'hiver, les cendres du fourneau dans le jardin. Mais finalement, le bois, quand il est brûlé et consumé, puis qu'il ne reste plus de la cendre, il n'y a pas beaucoup d'apport pour le jardin. Il n'y a pas beaucoup de matière nutritive dedans. Donc on peut en mettre une ou deux fois, mais le reste du temps, ce n'est pas utile. On a meilleur temps, alors à ce moment-là, de faire son propre compost ou alors d'acheter, on trouve dans le commerce des engrais bio maintenant qui sont à base de raclure de corne ou de choses comme ça. On a meilleur temps de mettre ça sera bien plus efficace.
Merci beaucoup, Cathy Racine. Ce matin, vous étiez avec nous, vous avez eu la grande gentillesse de nous accompagner pendant cette heure. Les filles, c'est déjà l'heure de prendre congé. Ben oui, il est bientôt 8h, le journal approche. Mais bien sûr, il vous reste le moyen de nous poser vos questions. Éline, comment est-ce qu'on peut faire?
Bah oui, jusqu'à la semaine prochaine, hein, on attend vos questions, notamment sur notre site internet. Si vous allez sur notre site, sous l'onglet émissions, vous trouverez le formulaire de contact. Ou alors, envoyez-nous vos SMS tout au long de la semaine en tapant, je vous le rappelle, le mot jardin suivi d'un espace. Et vous nous envoyez le tout au 939. Bah, on y répondra avec grand plaisir la semaine prochaine, dès 7h.
Rendez-vous donc la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bye bye.
7h, 8h, les jardinières.